Vous recherchez une formation vraiment enrichissante? Les Compagnons du Tour de France vous invitent à leur journée portes ouvertes. Avec des formateurs passionnés et des centres dans toute la France, les Compagnons du Tour de France vous proposent des parcours d'excellence dans les métiers d'art et du bâtiment pour les jeunes dès 14 ans et des formations professionnelles pour les adultes. Pour connaître toutes les dates des portes ouvertes près de chez vous, rendez-vous sur compagnonsdutourdefrance.org. Les Compagnons du Tour de France, la transmission des savoir-faire. Vous écoutez
RMC. RMC. 15h-18h, le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Allez, on y revient, on mastique dans le Super Moscato Show. Vous le savez, on est là tous les jours de 15h à 18h. Tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, toute l'année. Vous le savez pourquoi? Je vais vous le dire, moi, parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Vous êtes des millions et des millions à nous écouter tous les jours. On est avec le grand, on l'appelle le grand dans le milieu. Il n'avait pas le niveau pour faire au tennis le tournoi de Monaco, mais bon, ça c'est pas grave. C'est notre ami, c'est Steve Founébrin, comment il va?
Salut mon petit Vin, salut tout le monde. Écoute,
je suis
en pleine forme. Ouais, je suis en pleine forme, je suis en pleine forme.
Oh, voilà. Ça va, t'es bien.
Je suis bien.
Ouais, je sens que t'es bien.
Et toi, t'es bien?
Mais oui, je suis bien. Je suis bien parce que je suis avec toi, je suis avec vous.
Ah, c'est gentil.
Et surtout, on est avec celui qui aurait pu être le prince de Monaco.
Oui, ça fait plaisir, oui, il n'y a pas de problème.
Comment ça va?
Chaud était bien là-bas, tu sais. J'aurais passé des jours heureux, paisibles. Écoute, emmerdé quand même.
Déjà que le prince Albert, il n'a pas fait le régime comme j'aime, les deux réunis, crois-moi, vous auriez gamélé toute la journée comme des gorées. Comment ça va, Denis, t'es en forme?
Impeccable, je me suis fait un peu charcuter les dents, mais ça va.
Oui, c'est ça.
C'est l'âge, qu'est-ce que tu veux?
Puis quand t'as 45 combats de boxe en poids moyen comme toi, professionnel, c'est normal de se refaire faire un peu les crochets. Adrien, comment
il va? Oui, mais il va très bien. Demain, nous sommes à Marseille. Question moyenne marseillaise, puisque on va s'intéresser aux entraîneurs, au mercato, aux fantasmes. Finalement, quel Marseillais a le plus de chances d'entraîner un jour l'Olympique de Marseille? Christophe Galtier, l'entraîneur actuel du PSG, ou Zinedine Zidane, né à Marseille?
Oui, mais d'accord, mais...
Je vous pose la question, qui a le plus de chances d'entraîner un jour l'OM?
Je pense que Galtier, qui peut y être l'année prochaine.
Alors, Galtier, après un passage au Paris Saint-Germain, c'est compliqué quand même, hein, d'aller
non,
à l'OM après.
Non, bah non, non. Bon, c'est bon. Si.
Certes, c'est pas les supporters qui choisissent, hein, regarde-nous.
Non, bien sûr. Choisi, hein.
Après, moi, si je m'arrange de l'aspect uniquement financier, je pense qu'il y a plus de chances que ce soit Christophe Galtier que Zinedine Zidane.
Sauf si l'OM est un jour racheté par un grand pays, on sait jamais.
Un grand vizir.
Mais non, mais Zidane n'ira jamais entraîner Marseille.
Zidane n'ira jamais entraîner Marseille. Jamais.
Mais il serait fou.
Non, il irait s'il avait une équipe énorme.
Voilà, mais oui, s'il y a un milliardaire qui vient, oui, peut-être.
Ah,
mais...
voilà, c'est différent.
Oui, oui, bon.
Mais c'est toujours envisageable. Ça veut dire qu'il aime l'oseille.
Non, ça veut dire qu'il aurait une grande équipe. Comme
Stephen, tu réponds quoi? Galtier.
Christophe Galtier, oui, parce que financièrement,
Pierre Dorian.
Galtier, aujourd'hui, c'est Galtier.
Oui,
c'est
Galtier.
Il y a déjà un entraîneur du PSG qui entraînait l'OM derrière?
Oui, il y en a plusieurs.
Toi, Pierrot, tu te régalerais que Zidane vienne au PSG.
Ivic, il me semble, non?
Non, Ivic, non.
Peut-être, je pense.
Non, toi, tu confonds avec Vladimir Ilic.
Ah, peut-être Abel Braga.
C'est pas pareil.
Abel Braga, peut-être.
Peut-être. Il n'y a pas 10 000 quand même.
Toi, tu souhaites, Pierrot, que Galtier soit Marseille et Zidane au PSG. C'est ça que t'as envie.
Pierrot, il souhaite plus rien. Pierrot, il va tomber les infos, Vincent, en ce moment, sur le PSG.
Imagine que tu dors à la Juve. Est-ce que Galtier n'irait pas normalement
à l'OM?
Et Pierrot, et tu dors au PSG?
Tudor,
c'est un bon profil.
Ouais, mais fie-toi, écoute-moi, je vais te dire un truc. Je préférerais Tudor que certains autres qui sont passés par là. Il a au moins du caractère, il présente bien sur la photo. Moi, ça ne me gênerait pas que Tudor soit
pas possible. Tu sais, s'il poursuit sa progression, c'est pas possible.
Oui, parce que tu sais ce qui peut arriver, lui, c'est qu'il soit mort ailleurs et qu'on est quand même. Ah ouais, on l'a pris pour une pompe. Alors que tu vois, il faut lui laisser du temps. Il a 42, 43 ans. Méfie-toi.
Oui, mais au PSG, les entraîneurs, ils durent pas trop.
Ah, bah oui, non, mais au PSG,
c'est.
Voilà, bon, mais
alors, à la Juve non plus.
Et j'adore les fantasmes sur l'OM. Il y a Guy Bolt avec le hashtag RMC Live qui nous dit: mais attention, attention, vous ne savez pas, Pierrot, les copains, les Saoudiens ont acheté l'OM. C'est signé depuis 2 mois.
Alors, non, mais c'est signé depuis 3 ans.
Oui, c'est signé depuis 3 ans. Les rumeurs sur sur les réseaux sociaux, alors, les fantasmes des supporters.
Alors Zizou va arriver.
Alors le programme cet après-midi sur RMC, on va démarrer par la Formule 1 et le Grand Prix de Monaco qui a lieu dimanche. Vincent, bah figure-toi que même le Grand Prix de Monaco est menacé. La F1 peut-elle tourner la page des circuits historiques? C'est notre premier débat. À 16h, c'est le rugby. Vincent, les Rochelais ont-ils pris un gros avantage psychologique sur leurs concurrents grâce à la victoire en Champions Cup? Et puis nous avons un nom d'ailleurs que vous avez entendu dans les infos de Jamila Zegoudi à vous donner sur les listes du PSG pour le futur entraîneur, c'est Xabi Alonso. L'identité de l'entraîneur changera-t-elle tout pour le prochain Paris Saint-Germain? Le programme d'Apostruf, Adrien.
Un hommage forcément aujourd'hui, on va danser, on va chanter et je vais vous rappeler qu'un jour Vincent Moscato s'est glissé dans la peau de Tina Turner.
Exceptionnel.
Tu as découvert cette séquence, Stéphane, on va la revivre ensemble.
C'était chez l'idée, c'est que t'as tout vu sur la vidéo. Qui c'est qu'il y avait derrière à la base.
Rendez-vous 15h45, monsieur Moscato. Voilà. Surprise, voilà, voilà. Surprise. Belle performance de Vincent.
Et puis vos sensations fortes grâce au Kikadi, la Wonderbox Évasion Sportive. Vous envoyez Kikadi par SMS au 732-16. Mais tout de suite, le Grand Prix de Monaco, c'est un monument du sport français.
RMC, le Super Moscato Show.
Un dimanche ordinaire sur un circuit de Formule 1 à Monaco.
C'est là que tout peut se jouer, c'est une loterie.
J'ai l'impression d'avoir 20 ans dans la trouille.
Monaco, c'est le circuit le plus lent mais aussi le plus difficile. C'est un Grand Prix qui se gagne à plus de 140 km de moyenne horaire.
On va voir qui va gagner l'épreuve de force.
Et les pilotes effectuent pendant les 78 tours, soit 258 km, plus de 2000 changements de vitesse.
Ça partait bien, mais c'est dans la dorme à la sortie.
L'important à Monaco, c'est de prendre le commandement.
Voilà, voilà. Breaking news.
Ce week-end, c'est le Grand Prix de Monaco, Vincent. Un Grand Prix, figure-toi, qui a bien failli disparaître du calendrier. Alors, ça semble impensable de dire ça. Et pourtant, eh bien, plus aucun circuit n'est préservé. C'est-à-dire que même des circuits comme Spa ou Monaco sont menacés de disparition. La F1 peut-elle tourner la page de ces circuits mythiques? 32-16 pour débattre avec nous et Valentin Jamin pour les explications. Salut Valentin.
Bonjour messieurs, bonjour à toutes et à tous.
Alors, le contrat, en fait, les circuits ont un contrat avec la Formule 1 et celui de Monaco est arrivé à échéance l'année dernière, ça a été chaud. Hein.
Oui, il y a eu l'incertitude jusqu'au bout, donc le Grand Prix était en fin de contrat en 2022 et les propriétaires américains de la Formule 1 depuis 6 ans, Liberty Media, ils s'appellent, eh bien, ils sont arrivés aux négociations en disant, pour résumer, d'accord, on peut prolonger Monaco, mais à nos conditions, pour telle somme, donc on évoque 18 millions d'euros versés par an, et avec telle concession, comme le fait par exemple de laisser la F1 gérer la captation télé du Grand Prix. Monaco voulait absolument garder le GP et donc il s'est retrouvé en position de faiblesse et a fini par accepter ces conditions. Mais ça illustre bien le décalage entre une course historique qui fête sa 80e édition cette année, ce circuit urbain, certes jugé parfois peu spectaculaire parce qu'il y a peu de dépassements, mais mythique, et la logique de l'autre côté de Liberty Media qui pense argent, qui pense plutôt spectacle. Liberty Media se tourne volontiers vers le public américain depuis quelques années avec Miami l'an dernier, Las Vegas cette année pour des sommes bien plus élevées, et ça suit la politique de développement qu'on a vu aussi au Moyen-Orient. Donc Monaco incarne ce tiraillement en quelque sorte et a sûrement été sauvé là vraiment par son aspect historique. Ce n'est pas le cas du Grand Prix de France qu'on n'a plus depuis cette année, ou de l'Allemagne, le pays de Michael Schumacher qui est absent depuis 2020, alors que des circuits historiques comme tu en as parlé, hein, Spa ou Silverstone sont en sursis entre guillemets. Il leur reste respectivement 1 et 2 ans de contrat.
Alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour plaire à ces nouveaux patrons de la Formule 1? Quelles sont les conditions à remplir pour être au calendrier?
Alors il n'y a pas de cahier des charges précis, mais déjà il faut avoir un bon porte-monnaie. Le Qatar ou l'Arabie Saoudite payent 50 millions d'euros par an, donc c'est plus que deux fois plus que Monaco. C'est des contrats qui sont sur 10 ans. Abu Dhabi et Bahreïn, c'est 40 millions d'euros. Il faut aussi du spectacle en piste, mais aussi en dehors. Hein, à Miami, vous savez, il y a ce circuit autour du Hard Rock Stadium avec la Marina, la fausse mer, les VIP. On attend beaucoup de shows à Las Vegas, le Grand Prix de nuit à Bahreïn. Donc le but, attirer du public, encore du public, si possible, qui est jeune, si possible, qui est dépensier, dans des pays où les gens ont les moyens. Et la finalité, en fait, c'est de générer des revenus parce que Liberty Media a acheté les droits en 2017. Mais le but, c'est bien de faire de la plus-value financière, parce qu'il y aura revente à un moment.
Alors, est-ce qu'on peut tourner cette page-là, Vincent? Ne plus aller à Monaco s'il le faut, ne plus aller à Spa, ne plus aller à Montréal, etc.
Non, mais c'est un mélange. Il va y avoir quelques dates qui vont péter. Il y a des dates historiques. La Formule 1 s'appuie sur ces dates historiques, sur Monaco. Monaco, c'est plus qu'un Grand Prix. C'est quelque chose en même temps que le Festival de Cannes. À la fin du Festival de Cannes, c'est quelque chose. C'est Saint-Tropez, c'est la Côte d'Azur, c'est Nice, c'est toute cette région. Et puis, c'est Monaco, c'est grâce Kelly. peut pas. C'est l'histoire. L'histoire s'est faite de la Formule 1 par rapport à ces endroits-là. Et presque pas le contraire. Je veux dire, c'est pas, Monaco, il s'est pas fait avec la Formule 1. C'est la Formule 1 qui s'est fait grâce à Monaco. Donc, tu peux pas, après, t'as quelques dates comme Monza, ça restera. Mettons Spa ou d'autres dates, Silverstone, je comprends peut-être que ça peut bouger. Il y aura toujours une évolution. Mais il y aura toujours une assise sur des dates historiques. Et ça, tu ne peux pas y couper. Sinon, que l'attrait de l'oseille, je comprends qu'il faut beaucoup d'argent. C'est pas un souci, c'est le sport professionnel. Qu'ils soient tout le temps en train de chercher un peu d'oseille, je le comprends. Mais il y a des choses qui pourraient leur faire perdre beaucoup plus que de l'argent. C'est leur identité. Leur identité, leur histoire. Et ça, pour moi, c'est le plus important. S'ils comprennent pas, mais d'après moi, ils ont compris parce que pour être patron de la Formule 1, faut pas être un con. Donc, d'après moi, ils vont vite comprendre qu'il y a des dates. Il y a des dates qui sont des endroits qui ne pourront pas bouger. Parce que c'est ça. C'est la Formule 1.
Denis, t'es d'accord avec ça ?
Pas du tout. Pas du tout, parce que en fait, tu vois au Grand Prix de
Miami... Tu vas t'apercevoir qu'il n'y a pas que les bonbons qui font mal aux dents, toi, bientôt. On va faire ça, mon contré.
Non, mais quand on voit le succès phénoménal aux États-Unis ou partout, ça veut dire qu'elle se déplace partout dans le monde, la Formule 1. La problématique, c'est que tu n'importe où ça va être, ça sera un grand succès... populaire. Donc la problématique aujourd'hui, c'est l'argent, Vincent. Donc je suis pas d'accord avec toi. Moi, je suis très inquiet.
C'est typique non, de quelqu'un qui a jamais vu
mais
de
non,
la Formule 1.
T'as pas
ça
compris.
C'est typique.
Moi, je suis nostalgique de Monaco, de Monza, de Spa. Moi, tous les grands prix, je les ai vus il y a 30 ans. Vincent, je connais pratiquement la Formule 1 parfaitement mieux qu'aujourd'hui parce qu'elle m'ennuie aujourd'hui. Mais tu es forcé de reconnaître qu'aujourd'hui, je suis inquiet parce que c'est la course à l'argent, c'est tout. Et qu'aujourd'hui, tout coûte de plus en plus cher et qu'il n'y a pas de raison que ils n'avaient pas cherché l'argent là où il y en a. Donc je ne vois pas pourquoi ça.
Donc un circuit qui paiera 50 passera avant Monaco et paye 18.
Mais pourquoi l'inverse ?
Donc tu es d'accord que le PSG aille jouer au Stade de France pour gagner plus d'argent ?
Non,
qu'il
je
lâche
suis pas d'accord.
Parc.
Mais non, mais.
Non, mais Dany, Denis ne dit pas qu'il est d'accord. Il dit que c'est une fatalité. C'est pas pareil.
Exactement, je ne dis pas que je suis d'accord. Je suis contre totalement. Moi, je suis très nostalgique des grands prix. Mais je pense que c'est une fatalité.
Il ne faut pas rêver, quoi.
D'accord. Je pense que c'est fini.
Tu peux résister quand même un peu, non, Denis ?
Mais résister à quoi ? Le problème, c'est quand ils vont à Miami, c'est un succès phénoménal. Moi, je veux bien résister, mais tu as trouvé des villes qui vont payer cher et où il y aura le même succès. Donc, ça existera.
Mais moins d'histoire.
Ben oui, mais une histoire, mais parfois, il y a un virage qui se prend.
Peut-être que dans 30 ans, Miami, ça sera l'histoire de la F1. L'argent, ça y est, on a fait le tour avec Vincent et Denis, on en a parlé. La Formule 1 a pris un virage il y a 4-5 ans, notamment avec cette série sur Netflix, ils ont accueilli un nouveau public, un public bien plus jeune. Et aujourd'hui, ce public-là, pour le garder, t'es obligé de proposer du spectacle. Et force est de constater, et puisqu'on parle de Monaco, on va rester sur Monaco, le Grand Prix de Monaco, le décorum, le prestige, les yachts, les milliardaires, c'est magnifique.
Mais à un moment donné,
si tu t'arrêtes à ce qui se passe sur la piste, il ne se passe plus rien à Monaco.
Il ne s'est jamais rien passé.
Monaco, c'est une longue procession, c'est Bézu, à la queue leu-leu dans la classe, il ne se passe rien. Le mec qui fait la pole position...
Même Panis, il a gagné.
Le mec qui fait la pole position le samedi, il a 95% de gagner le Grand Prix. Et ces jeunes, ce jeune public-là, il cherche, et c'est peut-être dur à dire, il cherche du spectacle, il cherche des dépassements, il cherche éventuellement des accidents. Et c'est plus possible. Alors, si Monaco veut rester aujourd'hui au calendrier, Monaco doit aménager le circuit. Mais le problème, c'est que c'est impossible d'élargir. Aujourd'hui, les monospaces, elles sont de plus en plus grandes, plus larges, et le circuit de Monaco est trop étroit. Et même Lewis Hamilton, il disait, moi, je m'embête à Monaco.
Lewis, oui, mais tu interroges les pilotes. Alors, on peut aussi prendre en compte l'avis des acteurs. Ils sont que 20 dans le monde à pratiquer la Formule 1, c'est facile. Hein. On va tous les voir. T'as la très grande majorité qui sont amoureux de ce Grand Prix pour des raisons qui ne sont même pas...
Mais qui sont extra-sportives.
C'est global. Ils rêvent tous de gagner Monaco. Et ça, il faut le prendre en compte. Tu peux pas non plus mettre de côté l'avis des pilotes. Il faut prendre en compte ce que pensent les champions.
Mais le mec qui gagne à Las Vegas, tu crois qu'il a moins de...
Amoureux de ce Grand Prix.
À Las Vegas, le mec, il va vibrer comme tout.
Mais Denis, écoutons les pilotes.
C'est fini.
Vous avez vu, justement, ça tombe bien, il y a un Grand Prix qui a été annulé, le dernier Grand Prix qui a été annulé à Imola. Donc Canal, par mesure de secours, a diffusé un documentaire sur l'amour que portent les pilotes au Grand Prix de Monaco. Là, les pilotes te règlent le débat. Les acteurs te règlent le débat.
Oui, mais
c'est leur Grand Prix préféré.
Non, mais
pour ce qui se passe sur la piste.
Oui, c'est les
alentours.
Pour une globalité.
Mais non, c'est la principauté.
Mais il y a plein de sports.
Moi, je suis pas d'accord avec toi, Adrien. Il vient de là-bas, c'est le prestige. Tu peux rien faire. Même le pilote, il est heureux d'être. Ça le rend fier d'être à Monaco.
Et ben, nous, il y a plein de choses. Cet endroit, au golf, je pense qu'il y a des golfs qui sont plus. Ah, maintenant, qui sont peut-être. Le golf.
Ah oui, parce que Vincent s'est mis au golf.
Ah oui. Mais je fais des comparaisons. Parfois, je sais que ça peut vous surprendre. Mais c'est des trucs historiques. Mais Augusta, tout ça, je pense qu'il peut y avoir des golfs qui sont peut-être, et puis maintenant, avec les moyens que tu as, merveilleux. Peut-être mieux que Saint-Andrew, peut-être mieux qu'Augusta. Mais il y a des bases. Si tu perds ton histoire, tu te perds complètement. Et puis, il faut être patient dans la vie. Un dépassement rare à Monaco, ça vaut 25 dépassements si c'est facile à Miami. Et ça, c'est la rareté, c'est la finesse d'un pilote.
Mais
qu'est-ce qu'il faut faire après? Il faut rajouter. Et quand il va y avoir des morts et des accidents, il faudra rajouter quoi? Un fusil? À chaque pilote, ils pourront se tirer dessus. Puisque il y a eu la boxe. Maintenant, il y a la MMA. Et après, il y aura quoi? La MMA avec un couteau. C'est un engrenage. Et bien, la Formule 1, il faut qu'elle reste comme elle est, avec des performances moteurs, avec des circuits peut-être améliorés, peut-être. Mais il y a certains circuits comme Monaco, et bien, ils doivent y être parce qu'ils font partie du décorum, monsieur.
Mais faire partie de l'histoire et être là depuis 1950 ne doit pas te garantir une place chaque année juste parce que tu étais là de l'existence de la Formule 1.
Il ne faut pas se mentir sur les nouveaux circuits non plus. On s'embête souvent dans les Grands Prix de Formule 1. Et je ne pense pas que ce soit le circuit qui soit la raison. On s'embête parce que Red Bull domine trop. Donc si tu as une saison où c'est serré, à Monaco, tu vas avoir un super Grand Prix.
Tu parlais de spectacle, Stéphane, j'allais dans le sens de Pierrot. On s'embête quand même, on s'ennuie à la Formule 1.
On s'embête parce qu'il n'y a pas de concurrence.
Oui, on s'embête parce qu'il n'y a pas de concurrence.
Ce n'est pas le problème de Monaco ou pas Monaco.
Il se passe rien.
Mais en fait, il faut quand même sacraliser et se dire qu'on va peut-être gagner un peu moins d'argent pour garder quelque chose qui est historique.
Mais tu te rends compte comment ça coûte aujourd'hui la Formule 1?
Donc vous seriez d'accord avec les investisseurs à une époque qui disaient Roland Garros en fait ce sera plus un grand chelem et puis on va le faire à Madrid. C'était parce que ça va faire gagner plus d'argent, parce qu'il y a des Espagnols, je ne sais pas, qui mettent plus d'argent.
On l'a vu avec le tournoi de tennis, la Coupe Davis quand même. Il a voulu tout changer, tout ça, et ça ne marche plus. Il refond machine arrière.
Roland Garros, à un moment donné, a été en danger parce que c'était le tournoi du grand chelem le plus petit, le moins pratique dans les allées. Ils ont fait les travaux.
Ils ont fait les travaux pour essayer
de tenir la route.
Monaco parviendra un jour à améliorer des choses et peut te dire ils perdront jamais Monaco, jamais la Formule 1.
À partir du moment où ils leur mettent la pression sur les négos, tout est possible.
S'ils mettent 25 millions qu'ils mettent pas plus, ils l'auront plus, c'est tout. Adrien,
la parole à Guillaume 32-16.
On propose 60 pour un Grand Prix sur 10 ans et 25 à Monaco, crois-moi que la réflexion
à Gaillac, on est milliardaire, le festival de Cannes, on va le faire à Gaillac, à côté, à Brest, au bord du Tarn,
peut-elle tourner la page des circuits mythiques. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Alors, ouais, qu'est-ce que Guillaume, tu en penses? Est-ce que tu pourrais voir disparaître le Grand Prix de Monaco du calendrier de la F1?
Moi, je suis d'avis à Vincent que des Grands Prix comme Monaco, Spa, Silverstone, ça, ils pourront jamais disparaître. Parce que déjà, voilà. Monaco, il y a le prestige de la triple couronne.
Mm-hmm. Les 24 heures du Mans et les 500 miles d'Indianapolis.
Voilà, tout à fait. Sûr. Et même, je pense que on demande à n'importe quel pilote s'il préfère gagner le Grand Prix de Monaco ou 15 fois le Grand Prix de Miami. Pour moi, je pense que la question elle va être répondue. Et Miami...
Tu fais partie du club des Guy, c'est sûr. T'es brillant.
Et même Miami, c'est tout pour le business. C'est juste à créer des faux trucs, à mettre des yachts en bord de piste pour faire semblant de ressembler à Monaco. Donc on s'inspire quand même d'un Grand Prix qui est amené à disparaître, d'après ce qu'on dit. Et moi, j'attends vraiment de voir le Grand Prix de Las Vegas, voir comment il va être, parce que d'après ce qu'on dit et le circuit qu'on va voir, je pense que ça va être une purge à pas en finir, avec une ligne droite de 3 ou 4 kilomètres. Et ouais, voilà. Ouais. Donc je pense que les Grands Prix, pour moi, les Grands Prix historiques, Spa, Monza, des choses comme
Monza.
Ça, je pense que ces Grands Prix-là resteront dans l'identité de la F1 et qu'à un moment donné,
c'est un
média et à un moment donné, Liberty Media se rendront compte que le public, c'est ce qu'ils veulent, c'est de la bataille et retrouver la F1 d'avant et pas avoir des Grands Prix à Las Vegas ou
des trucs inventés pour de l'oseille. Bien entendu, bien
je pense
entendu,
que vous êtes c'est un pas... peu, oui, peu oui, naïf oui, sur oui. les intentions oui. de, ouais, du ouais, détenteur ouais, de droit.
Laisse, hein. laisse notre naïveté, Pierrot. Laisse, on est des purs, nous. Voilà, nous, ce qu'on veut, c'est garder nos traditions. C'est
merci, Guillaume, voilà. pour ton appel au 32-16 Grand Prix de Monaco merci, à suivre ce merci, week-end Guillaume. Sur RMC. Dans un instant, Vincent, nous allons surfer les plus hautes vagues du monde. Bon. Justine Dupont attend un record du monde en homologation, là, en ce moment. Une vague de plus de 20 mètres, Vincent.
Mon Dieu.
Mon Dieu.
Allez, mais certains moments, quand j'étais à la cano, tu vois, que j'avais un bar, j'aurais pu la surfer, j'étais en bourre. J'étais en bourre à cette époque-là, j'aurais plus maintenant. Plus maintenant, on arrive tout de suite. Comment ? On arrive tout de suite dans le Super Moscato Show.
RMC, jusqu'à 18h, le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Allez, on y revient au Mastic dans le Super Moscato Show. Il est 15h28. Steve Foulebret avec nous, Denis Charvet, Adrien, oui. Pierrot dans 2 minutes, fais-moi claquer le programme.
Alors, dans une demi-heure, Vincent, le PSG et son futur entraîneur. Le choix, l'identité de cet entraîneur est-il déterminant pour la suite et pour l'avenir à court terme du Paris Saint-Germain? On a des noms à vous proposer d'ailleurs tout à l'heure sur RMC. Et puis un témoin, un grand témoin nous dira si oui ou non Vincent Moscato est déjà monté sur une planche de surf. Ouais. Ah ouais. Le surf, c'est tout de suite sur RMC.
Non mais oh.
RMC,
le cri du cœur du Super Moscato Show.
Nous accueillons Justine Dupont, multiple championne du monde et détentrice de records, entre guillemets, c'est ce que j'ai lu, Justine, la meilleure surfeuse de grosses vagues du monde. Est-ce que ça te va comme définition?
Bah, c'est gentil, merci. Ouais.
C'est ce que salut, j'ai lu, Justine. Hein. Justine, des bonjour. Papiers sur toi, c'est comme ça qu'on te définit. Est-ce que ça te correspond? Est-ce que ça te convient surtout?
Bon, c'est gentil, c'est bien. Après, c'est sur la planche qu'il faut parler.
Répondre.
Voilà, qu'il faut répondre. C'est dans l'océan.
Alors, la saison hivernale est terminée et tu es en attente. C'est ça que tu vas nous raconter tout de suite, d'une validation de record du monde. Une vague d'une vingtaine de mètres, donc il faut encore mesurer pour savoir si tu as battu le record du monde ou pas, que tu as surfé à Cortez Bank en Californie, à 200 km au large de la côte.
Ouais. Oui, c'est ça.
Alors raconte-nous un peu déjà, qu'est-ce que c'est que ce spot à 200 km? C'est courant de faire du surf à 200 km des côtes?
Non, ça fait 30 ans qu'ils connaissent l'endroit et il y a eu peu d'expéditions qui ont été faites. Et aussi parfaites, il n'y en avait jamais eu à part cette fois-ci. On y allait, donc on a navigué toute la nuit, on arrivait avec un bateau. Et du coup, après, on est parti sur la vague, sur le spot toute la journée, on a pu surfer. Et le soir, on est rentré en bateau, pareil.
Mais vous anticipez les conditions ou pas?
Oui, forcément.
La météo, vous savez à l'avance qu'il va y avoir tant de vagues ou...
Exactement, une semaine à l'avance, normalement, on commence à comprendre un petit peu ce qui va se passer dans l'océan. Après, puis on s'y rapproche et puis on est sûr. Mais on n'est jamais sûr, c'est ça qui est fou avec la nature. On n'est jamais sûr de rien. Jusqu'au dernier moment, finalement, le vent peut se lever, il y a des paramètres qui peuvent changer.
La nature, on va en parler parce que, Justine, tu es très impliquée aussi dans l'écologie et tu nous as engueulé parce qu'on a des bouteilles d'eau en plastique pour boire pendant l'émission, donc on en parlera tout à l'heure. D'abord, ce record dingue, Cortez Bank.
Comme moi, mais les mains.
Cortez Bank en Californie, donc 200 km au large. Oui. Une vague de 20 mètres, ça correspond à quoi? Comment tu pourrais décrire ça à quelqu'un qui n'est jamais monté sur une planche de surf?
Je dirais que ça correspond à descendre un peu une montagne. Et en sachant que ça serait mieux de rester sur sa planche parce qu'il peut avoir, enfin, il y a une avalanche derrière, en fait, un peu.
Oui, ouais.
Mais, et après, voilà, moi, j'essaie de jouer, du coup, sur la vague, donc de dessiner les trajectoires. Donc, ça peut être du snowboard, un peu comme du skate, peut-être, comme sensation un peu qu'on peut
comprendre. On a peur en haut ou non? Beaucoup ou non, toute l'habitude de sa préhension?
On a peur avant, après pendant, non, parce que pendant, je suis concentrée à 100%, je suis un chat attentif et tout.
Tu vois tout, tu arrives à tout voir, ou c'est une partie de sensation et de feeling? Ça va vite quand même.
Oui, ça va vite. Et puis des fois, on peut être un petit peu dos à la vague, donc il y a beaucoup de ressenti, beaucoup de ressenti.
Tu ne vois pas tout, tu peux pas tout voir.
Oui, c'est vrai, c'est un mix, il y a un peu tous les sens qui sont en éveil, qui sont là où tu vis, t'es à fond et tu vis, tu utilises tous tes sens au maximum de son potentiel. Donc ça, c'est chouette quand, en tant qu'humain, de se dire « Waouh, là, je suis un super héros dans l'instant parce que je suis en train de vivre à 100% mon potentiel. »
Alors, raconte-nous. Donc, t'es en pleine mer, donc à 200 km au large.
Des requins blancs. Hein.
Il y a, paraît-il, des requins blancs, mais je suppose que tu les vois pas. Les vagues arrivent à quelle fréquence et comment tu fais? Comment tu t'organises? Est-ce que t'es tracté pour pouvoir prendre la vague? Dis-nous tout.
Oui, du coup, on était tracté, donc on fonctionne par équipe. Donc, il y avait Lucas Chumbo, qui est le meilleur de la discipline. Donc lui, il était sur le jet ski, il me choisissait les vagues, okay. Et moi je surfe. Et après on a changé. Et moi j'ai piloté le jet ski et lui surfait. Et là bon, il faut faire la sécurité aussi, veiller à ce qu'il, quand il sort de la vague, que je sois là pour le récupérer. Et après il y avait de la sécurité en plus qui veillait sur nous parce qu'on était quand même très loin des secours possibles. Donc
C'est dangereux quand même, Justine, soyons honnêtes. Bon, bien sûr, c'est ton métier, tu sais faire ça, mais c'est pas une pratique courante du surf, même pour les professionnels.
Oui, c'est dangereux. Hein. Vous m'avez reçu l'année dernière quand j'ai fait manger la falaise de Nazaré, je m'en rappelle bien. Et oui, il y a un côté dangereux, mais c'est ça qui me permet aussi de prendre les choses au sérieux, de m'entraîner suffisamment et de bien m'entourer et de vivre à 100% en fait.
On a tellement de points communs, c'est fou, parce que moi aussi j'ai nagé, j'étais à Cannes pendant 3 jours, je nageais au milieu des requins. J'étais tracté de 30 ans par Denis qui me tractait.
Les requins du cinéma, c'est ça, Vincent.
Est-ce que c'est la plus haute que t'aies surfé?
En Californie.
Sur l'histoire.
Non,
oui.
Mais d'ailleurs, t'as surfé des plus grosses ou des, non?
À Nazaré, j'en ai surfé des très très grosses. À Nazaré au Portugal, c'est là où il y a les plus grosses vagues du monde normalement,
c'est quoi, 27,
la plus grosse fréquence. Je sais, je pourrais pas dire un numéro vraiment exact, mais plus de 20 mètres, quelque chose comme ça. Et c'est la fréquence de ces vagues que j'ai pu surfer de hauteur à Nazaré était impressionnante. Mais c'est ça qui était rigolo avec cet hiver en Californie. Finalement, bah, j'ai surfé la plus grosse vague que j'ai pu surfer ailleurs, en Californie.
Vas-y, Vincent. Il paraît que quand tu passes dans les rues là-bas, tout le monde est à genoux et c'est Justine de Nazareth. Quand tu passes dans les rues, comme ça, tout le monde te salue. Tout ça, bon.
Alors, je sais pas si t'as bien fait de t'interrompre, Stephen, vas-y, enchaîne.
Quand on parle de ces sports-là, on évoque toujours le drame, la peur. Comment vous vivez-vous? Parce que j'ai vu qu'il y avait un Brésilien qui à Nazareth était décédé, frère. Comment vous vivez-vous dans cette confrérie des surfeurs, le fait qu'il y ait quelqu'un qui perde la vie? Est-ce qu'après ça vous traumatise quand vous allez dans l'eau ou vous faites attraction de tout ça?
Mais ça fait partie du jeu, c'est comme les blessures. Alors là, malheureusement, c'était bien plus grave et conséquent, mais ça fait partie du jeu. On est conscient, on est vulnérable, on est juste des petits humains qui allons dans l'océan et l'océan qui est un peu énervé souvent.
Et tes proches, comment ils vivent ça, cette passion, ce boulot-là?
Ils vivent comme ils peuvent, et puis voilà, ils n'ont pas le choix.
Est-ce que tu as des protections?
Oui,
derrière, comme les trucs de moto,
oui,
pour
exactement.
La colonne vertébrale, le cou et le casque.
Ça serait bien, mais j'ai un gilet de avec des cartouches, du coup, donc ça me permet, comme l'équitation ou en ski, ça me permet de gonfler une poche d'air et de remonter à la surface plus vite. Voilà.
On est avec Justine Dupont dans le Super Moscato Show, donc qui nous raconte son record du monde à Cortez Bank en Californie. Alors, record du monde, pas encore homologué, on va en dire un mot. Adrien.
C'est dur ce que tu fais, c'est assez extrême. Est-ce que dans ta tête, tu dis à un moment, là, ça va, je vais m'arrêter. J'ai une limite, je sais qu'à tel âge ou en telle année, j'ai décidé de tout ranger, de ranger le surf dans le garage.
Non, je pense que c'est un sport à sensation, à passion. Donc tant que la passion elle est là, l'envie elle est là, je vais continuer de surfer et c'est un sport, mais c'est aussi une activité que tu fais toute ta vie. Après comment, peut-être différemment,
pas une condition, ouais.
Peut-être, mais il y a encore plein de choses à faire, que j'ai vraiment envie de surfer ces grosses vagues, mais aussi les surfer différemment, d'aller peut-être trouver d'autres vagues aussi. Il y en a qui sont moins connues aussi, donc il y a plus ce côté un peu aventure, mettre
t'as
en place
déjà surfé à la canoë.
Oui, j'ai commencé à la canoë. Ah
elle est bordelaise,
c'est ça. Elle est bordelaise, c'est pour ça que je voulais savoir. Parce que moi aussi, j'ai surfé à la canoë.
On va en parler, ne t'inquiète pas.
Toi, t'avais un bar à la canoë.
Brice Denis va tout nous dire de tes exploits en surf. Il attend au 32-16. Juste un mot, Justine. Pourquoi ton record n'est pas encore homologué? Qu'est-ce qu'on attend pour dire oui ou non, c'est la plus haute vague du monde?
On attend des mesures plus exactes. Voilà.
Et alors, on mesure après. Comment ça se passe?
Oui,
c'est quoi la technique pour mesurer une vague?
Mais ça, je ne sais pas encore exactement. Je ne pourrais pas très bien l'expliquer.
C'est pas très précis, quoi.
Non, voilà. Il y avait une ancienne mesure qui était la taille du surfeur qu'on multiplie sur la photo. Mm-hmm. Et maintenant, ils sont en train. Voilà, ils sont en train de faire des choses qui sont quand même plus
technologiques,
exactement.
Alors,
donc pour l'instant,
un dernier mot sur ce record. Donc une vague à peu près 20 mètres. Combien de temps dure le je sais pas si on dit un
quelques
ride.
Secondes, ouais.
Quelques secondes. Et qu'est-ce que tu fais? Tu t'amuses ou t'as pas le temps de t'amuser?
Tu t'amuses.
Tu cherches de la vitesse, tu cherches des figures, tu cherches quoi?
Tu cherches des courbes. Pensez quand il y a cette taille-là, tu cherches des courbes. Pas trop de manœuvres non plus. Là, c'est vraiment la descente de la vague. C'est engranger cette vitesse, réussir à faire des trajectoires, dessiner des courbes, prendre cette c'est vitesse, l'intégrer.
En seconde.
Oui, en seconde. Ouais, 20 secondes.
Tu as un surf particulier quand tu prends des vagues comme ça?
J'aime les vagues un tout petit peu plus petites qui sont quand même grosses, hein, qui sont des trucs comme des 10 mètres ou quoi. Il y a plus d'espace et on peut surfer un peu plus. Quand ça commence à être des très très grosses vagues, les très gros jours, là on réfléchit un petit peu plus à contrôler ce qu'on fait. Donc c'est des surfs différents, c'est des approches différentes suivant un peu les tailles du jour. Après là, en Californie, c'était lisse, donc ça me permettait de vraiment m'éclater, de m'amuser. C'était comme le ski la poudreuse, peut-être.
Tiens, Stéphane, vas-y.
Je voulais parler des Jeux Olympiques en France. Tu vas pas y participer parce que pourquoi les critères de sélection te permettaient pas de partir à l'aventure comme ça? C'était trop privé de quelque chose.
Oui, c'est ça. La fédération française, elle a mis en place des critères qui me permettaient pas du tout de continuer ma passion dans les grosses vagues et suivre l'hiver. Il fallait que je suive l'été, les petites vagues, les compétitions. Pour intégrer
et ça veut dire que pour vous, les Jeux Olympiques, pour les surfeurs, ça a moins d'importance qu'un judoka ou un nageur?
Je pense que ça commence à être très important quand même. Ça a de l'importance. Mais pour moi et ma passion du surf qui est, aventure. C'est le côté aventure, de grosses vagues, de recherche de liberté absolue, de repousser ses limites, tout ça. Hors cadre, en fait, un peu. Aussi.
Justine, avant d'évoquer le parcours de surfeur de Vincent Moscato, parce qu'on a un vrai témoignage qui arrive, une question quand même sur l'événement de la semaine prochaine. Tu es marraine des Eco Games Sport Planète 2023. En quoi ça consiste? C'est sensibiliser les nouvelles générations à l'écologie par la mer. C'est quoi exactement l'idée?
Oui, c'est ça. L'océan m'a donné beaucoup, donc j'ai envie de donner en échange. Du coup, c'est une fierté pour moi de pouvoir être marraine du coup, de ces événements qui sont fédérés par la MAIF. Et du coup, ça sera un bon moment pour sensibiliser, faire des actions. Il peut y avoir après jusqu'à 3000 arbres plantés suivant des challenges qui seront faits sur Internet pendant cet événement-là. Du coup, les Eco Games Sport Planète qui seront du 5 au 11. Et je serai aussi à Paris vers le 10 pour une table ronde avec Chiloé pendant le festival.
Explique-nous pourquoi tu nous as grondé quand tu as vu ces bouteilles en plastique sur notre studio.
Ah oui, il y a des bouteilles en plastique
pour boire.
Parce qu'il n'y avait pas de Ricard à l'intérieur.
Parce que ces bouteilles en plastique sont un usage unique et mettent 100 ans à 1000 ans à être décomposées dans la nature. Et j'espère que vous allez les mettre dans la boîte de tri au niveau des bouteilles en plastique. Mais voilà, c'est quand même un déchet qui n'est pas
des gourdes.
Oui, voilà, des gourdes, exactement. Éviter les plastiques à usage unique et tout ce qui part dans la nature, ça revient dans l'océan.
Pour finir, question très importante. Vincent Moscato a-t-il déjà surfé? Nous avons un témoignage en direct. C'est celui de Christophe Lossuc, son ancien coéquipier au Stade Français, qui nous appelle parce qu'il a quelque chose à nous révéler. Salut Kiki.
Salut Christophe. Quel est ton témoignage? Dis-nous tout.
Déjà, je voulais féliciter Justine. Ouais, je suis de la Cano aussi, je la connais depuis qu'elle est toute petite, j'ai vu surfer petite et c'est assez incroyable tout ce qu'elle réalise au niveau mondial maintenant, ça devient une véritable légende de ce sport. Je vais peut-être me fâcher avec Vincent maintenant parce que autant je veux bien qu'il parle déjà de foot, j'ai un peu de mal à demander à Denis, j'ai quand même fait 5-6 ans de foot avec lui à peu près une fois par semaine. C'est quand même, j'imagine que pour les footeux de l'entendre critiquer, parler de foot, ça va être un peu compliqué.
Le surf,
j'ai bondi sur le téléphone, là c'est juste pas possible.
Ça donne quoi?
Dis donc, la petite Justine, elle m'a vu à l'époque avec Bernard, c'est ça qui lui a donné envie.
Raconte-nous Christophe, qu'est-ce que tu as vu exactement?
J'ai surfé avec toi, j'ai surfé avec toi même.
La seule tentative de surf de Vincent à la Cano, j'y étais, je me rappelle très bien, on était plus près de la noyade ou de l'échouage de Marsouin que de surf, donc faut pas le laisser dire ça.
Alors parfois il a été très bon en surf, coupe, mais c'était lors de soirées chez Max après les matchs. C'est une autre histoire. Merci beaucoup, Justine.
Salut Kiki, merci.
Merci Christophe Lossuc.
On t'embrasse et à bientôt, Christophe.
Et Justine, merci encore d'être venue nous raconter toujours ces histoires qui sont tellement peu communes dans le Super Moscato Show.
Bravo, merci.
Et Vincent,
à très bientôt.
Apostrophe tout de suite. Christophe Lossuc qui fera partie du staff de Yannick Bru la saison prochaine à la tête de l'UBB, en charge de la défense de l'UBB en top 14.
J'ai jamais un hypoglycémie, le Suc.
Non, il y a toujours du sucre sur lui. Allez, à tout de suite. Hommage à Tina Turner, l'ami de Vincent Moscato. Oui, Tina Turner.
Oui. Parce que j'ai fait du surf, mais j'ai aussi dansé, chanté. Je m'en excuse. Allez, on arrive tout de suite dans le Super Moscato Show.
RMC, jusqu'à 18h, le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Il est 15h48, le Super Moscato Show. On y revient au Mastic, c'est l'heure de la culture.
Apostrophe.
RMC, c'est l'heure d'Apostrophe dans le Super Moscato Show.
Force de demander cette question, tu formules la question dans ta pensée, ton cerveau, qui est tout, et à force de formuler cette question, tu deviens cette réponse.
J'adore, exceptionnel Jean-Claude.
Ça faisait Jean-Claude Van Damme, un des parrains d'Apostrophe, la culture pour les truffes, hommage dans le Super Moscato Show.
Tout ce qu'il dit est vrai.
Hier soir, nous avons appris une triste nouvelle. Nous avons appris la disparition d'une méga star internationale, Tina Turner, décédée à l'âge de 83 ans chez elle en Suisse. Une coiffure, une voix, une façon de danser, du charisme, des tubes comme The Best qu'on est en train d'écouter. Tout le monde s'est trémoussé un jour en boîte de nuit, dans la voiture, dans la salle de bain, sur The Best. Elle a fait ses adieux sur scène en mars 2009 à Bercy. C'était son dernier concert en France puisqu'elle adorait la France, Tina Turner. Et l'hommage a commencé chez Estelle Denis, déjà avec le passage antenne de Vincent à 14h50. Et c'était à ma foi un très bel hommage. Donc Vincent, on va forcément rendre hommage à Tina Turner. Allez. C'était très réussi. Comme d'habitude, Vincent, quand quelqu'un disparaît, tu sais faire.
On parlait de star, on parlait de légende.
Et de chanteur.
Et de chanteur. J'en ai un autre.
Ouais, oui. Moi. Et oui, il est là.
La Mosca Dance.
La Mosca Dance.
On n'oublie pas, Vincent. Inoubliable,
Mosca Dance. Comment ça va, sûr. Vincent Moscato avec
nous. Non, c'est triste quand même. Nina Hagen, quand je l'ai appelé, ça m'a fait une bizarre. Ça m'a tiré la tournée d'honneur. Nina Hagen. Je l'avais en tête, Nina Hagen.
Je sais pas pourquoi.
Vous rappelez de Nina Hagen?
Oui, absolument.
Oui, mais là, on devait rendre hommage à Nina Turner. Voilà.
Exceptionnel. Je vais écouter en direct, c'est exceptionnel.
Heureusement qu'il n'a pas dit
Nina. Bravo, Vincent.
Yvette Turner.
Non mais vous vous rappelez de Nina Hagen, Pierrot de
Saint-Denis? Oui, Nina Hagen. En fait, là aujourd'hui, c'est l'actualité, c'était Tina Turner. Elle est pas... vous ne vous en souvenez peut-être pas, mais Tina Turner fait partie de l'histoire du Super Moscato Show. Nous sommes le 14 novembre 2014 en direct de l'Olympia sur France 2. L'émission s'appelle, Pierrot, The Fiesta. Patrick Sébastien,
c'est bien trouvé.
Patrick Sébastien fête ses 40 ans de scène. Il invite ses amis à l'Olympia qui chantent tous déguisés en grandes stars. C'est la spécialité des émissions de Patrick Sébastien. De vraies performances. Et donc une star de la radio va se glisser dans la peau de Tina avec des talons hauts, avec une magnifique coiffure, accompagnée de danseurs et d'un saxophoniste, cheveux longs derrière lui, petites lunettes noires. Écoutez, il boite un peu, le saxophoniste, il a du mal, il boite un peu, il pêche un peu sur la gauche. Pourquoi je suis là ? Et Patrick Sébastien en direct présente cette magnifique performance Olympia, 5 millions de téléspectateurs à l'époque, incroyable.
Qui se cache derrière celle qui va venir maintenant ? Accompagné au saxophone par son ami Eric Dimeco, de son émission sur RMC, mesdames et messieurs, dans le rôle de Tina Turner, voici Vincent Moscato.
Et là, c'est parti pour un show incroyable. Vincent arrive sur des talons, il danse, il balance une jambe à droite, à gauche. Il y a notre ami Eric Dimeco qui fait semblant forcément du air saxo, mais il se prend pour un saxophone. Alors là, franchement, ça commence à monter dans l'Olympia. Ça commence à monter, c'est chaud. Le public est debout. Je pense qu'il y a vraiment des gens qui ont cru que c'était Tina Turner, Vincent, parce que
ça ressemblait en tout
cas. C'est moi qui chante.
Et donc, fin de la chanson, écoutez ce qui se passe. Standing ovation.
Monsieur Vincent Moscato.
Eh oui,
super bon. Écoute. Venez, princesse.
Écoute, baisse ta robe parce que là vraiment.
Et oui, c'est vrai que la robe était un peu courte, elle remontait un peu, et puis Vincent, en dansant, vous voyez ton
4. Ah bah, tu mets une robe courte à un sanglier, Patrick, il est content.
Il y a quand même la séquence, Adrien.
Alors, Vincent est très essoufflé. Écoutez, parce que là, c'est une performance sportive, c'est du sport de haut niveau.
Non, mais sur talon aiguille, c'est comme si sur la pointe des pieds pendant 3 minutes.
Vincent tente de dire ce qu'il a ressenti pendant cette performance. C'est dur.
Qu'est-ce que tu m'as fait plaisir, mon Vincent?
Moi aussi, je me suis fait plaisir, mais.
Tu t'es fait plaisir, mais c'est dur. Ah, mais c'est pas facile, Tina. Il est où ton copain Dimeco? Il est là.
Il est derrière.
Dimeco. Hey. Voilà. Tous les jours sur RMC, les deux. Et vous m'avez fait plaisir, les mecs.
Merci. C'est toi qui nous a fait plaisir, Patrick, parce que.
Ouais.
Quand je jouais avec toi, quand j'étais à Brive, tu m'as mis des fois dans des tenues, mais. Ah. Pas dans celle de Tina Turner.
J'ai été son président, et de le voir comme ça, je sais pas comment dire. Tu as une expression, Eric?
Ah, tu as une expression, Eric, pour dire ce que tu penses de. Alors, Eric Dimeco, va-t-il être original? Va-t-il faire comme un compliment à son copain? Sur France 2 en prime, devant 5 millions de personnes, de téléspectateurs. Eric Dimeco qui parle de son copain, Vincent.
Tu as une expression, Eric?
Bah, je sais pas, ça me rappelle Fantasia, les hippos, la danse des hippopotames dans Fantasia. Non, c'était pas ça?
Ouais, super.
Est-ce qu'il l'avait préparé?
Ce qui fait vachement plaisir, c'est que vous ne preniez pas au sérieux. Écoute, vous êtes content de ça? Qu'on se prenne pas au sérieux?
Ouais, Giro,
c'est
génial!
C'est génial.
Allô, les torchons.
Aïe, bon, super souvenir.
Super passe.
Ah, c'est super. Bah ouais, c'était une très belle soirée. C'était à l'Olympia.
C'était télévisé, c'est ça?
Mais 5 millions. Direct à la télé, France 2, Prime, les 40 ans de scène.
À moins de 5 millions, je bouge pas. Voilà, tout simplement.
Tu avais fait déjà l'Olympia, Vincent, en 2014, ou tu allais le faire?
Non, je l'ai pas fait encore.
Tu l'as pas fait encore?
Si, je l'ai fait en 2012, la première fois. Voilà. Et la deuxième fois en 2014 ou 2015, je sais pas.
2012 déjà, ouais.
T'avais
voilà,
plus 2012, la pression pour ton one man ou pour.
Je me souviens, c'était l'élection de François Hollande. C'était un truc autour.
Question, t'as plus la pression quand tu fais Tina Turner à l'Olympia ou quand tu joues ton one man seul?
Ah non, quand tu fais ton one man quand même, ouais. Papa. Ah ouais,
parce qu'avant Tina, t'avais la pression quand même, t'as répété et tout, je me souviens, c'était
chaud. Tina Turner, t'es déguisé, tu fais le con, t'as essayé d'apprendre un peu le texte pour que les lèvres collent un peu à la chanson, que tu dis, enfin, j'aime le jambon et la saucisse, quand même, que tu ressortes une phrase ou deux, puis après, tu regardes la chorégraphie.
D'accord, que secrètement, il espérait que tu tombes, non, que tu te pètes la gueule sur tes talons aiguilles. Ah, c'était ça le but, oui.
But c'était ça, mais, non, mais tu essayes de regarder la vidéo, c'est vrai, et tu essayes de faire comme un
petit
avec des gestes, un peu brusques, parce que, comme, quand t'as chanté cette chanson, elle avait déjà un certain âge, elle avait une certaine rigidité, et moi qui suis un acteur et qui aime
et puis Vincent,
le personnage Pierrot, tu es le mec
qui Vincent, c'est pas normal qu'ils auraient retiré tous les programmes, toutes les émissions à Patrick Sébastien, quoi. Non, mais après, il devrait avoir encore un show après,
écoute-moi, je vais te dire un truc, dans le plus grand cabaret et tout, les numéros spectaculaires,
le plus grand cabaret, c'est
les plus grands cabarets, tout ça, c'était génial. Et je suis bon, après la politique de France 2, je pense pas qu'il colle énormément par rapport à la direction.
Franchement, Vincent, cette chanson te colle à la peau. Simply the best.
Voilà,
c'est toi, Vincent.
C'est ma vie. Voilà, tout simplement, Piron.
Dans un instant, Vincent sur RMC. On va parler de l'entraîneur, du futur entraîneur du Paris Saint-Germain. Ce choix est-il capital? L'identité du futur coach va-t-elle déterminer l'avenir du PSG? A tout de suite.
Allez, on revient tout de suite dans le Super Moscato Show.
RMC, 15h, 18h.
Le Super Moscato Show.